Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. Chers auditeurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. C'est l'heure de votre forum, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Le forum du studio Kalangou, votre émission radiophonique d'échange, de débat et d'édification à travers laquelle des personnes ressources apportent des réponses précises à vos préoccupations sur des questions d'actualité ou de société. C'est dans cette optique que nous vous proposons ce soir le thème « Les résultats des sessions 2021 du BEPC et du baccalauréat au Niger, quel bilan ?» 20,50% et 22,75% sont cette année les taux officiels nationaux de réussite obtenus au Niger, respectivement au brevet d'études du premier cycle BEPC et au baccalauréat. Des taux qui sont en deçà des attentes ont estimé cette année plusieurs acteurs de l'éducation. Quelles sont les causes de ces faibles résultats au BEPC et au baccalauréat cette année au Niger? Que faire pour une amélioration de ces taux à l'avenir? Pour répondre à ces questions et à d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir comme invité M. Bizo Moussa. Il est le secrétaire général du syndicat national du cadre de l'éducation au Niger, SISEN. Il est par ailleurs membre de la coalition des syndicats, associations et ONG pour une éducation de qualité pour tous au Niger, à SOEPT. Monsieur le SIG, bonsoir.
Bonsoir.
Notre deuxième invité est Monsieur Wisileman Ransaratan. Il est le président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants. Président, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, c'est Monsieur Bachir Maman. Il est le représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. USN. Monsieur Bachir Maman, bonsoir.
Oui, bonsoir.
À la présentation de ce forum, je suis Michel Deji. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre. Selon le directeur des examens et concours et de l'orientation, sur les 150 664 inscrits au BEPC sur toute l'étendue du territoire national cette année, 145 299 se sont présentés et 6 938 ont été déclarés admis à l'issue des épreuves du premier groupe et 22 847 à l'issue des épreuves du second groupe, soit un total d'admis de 29 785 pour un taux global national de réussite de 20,50%. Pour rappel, en 2020, ce taux de réussite au BEPC était de 23,43% et de 33,64% en 2019. En ce qui concerne les résultats globaux définitifs de la session 2021 du baccalauréat au Niger, au total sur 78 372 candidats qui ont composé cette année au Niger pendant cette session, 17 829 sont admis, soit un taux de réussite national de 22,75%, toutes séries et spécialités confondues. Un taux qui est là encore, en régression par rapport à celui de l'année passée, qui est de 33,76%. Monsieur Bizo Moussa, secrétaire général du syndicat national du cadre de l'éducation au Niger et membre de la coalition ASSO EPT Éducation de qualité pour tous au Niger. D'abord, quel bilan tirez-vous de l'année scolaire 2020-2021 qui s'est écoulée?
Bien, merci déjà pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter à ce forum sur un sujet extrêmement important qui concerne la vie de notre système éducatif. D'abord, la première réaction, je pense que vous l'avez déjà brossé dans votre présentation. Quand on donne un taux de 20,5% pour les BPC et 22,75% pour le bac, l'appréciation qu'on peut avoir de ces bilans ne peut être qu'une appréciation vraiment négative.
Mais qu'en est-il de l'année scolaire qui a donné ce résultat? Est-ce que vous avez trouvé en tant qu'acteur de l'éducation cette année stable, l'année scolaire 2020-2021?
Justement, les résultats les plus souvent, ils le reflètent. Et ça, ce n'est un secret pour personne. C'est ce qu'on a vécu comme déroulement de l'année scolaire. C'est vrai, cette année, il faut le reconnaître. Hormis la situation de la pandémie de la COVID-19, qui a un peu ébranlé le système éducatif avec les arrêts que nous avons connus.
Mmh.
Et il n'y avait pas eu pratiquement que ce soit au niveau du cadre syndical, aussi bien au niveau de scolaire, il faut le reconnaître,
mmh.
qu'au niveau des enseignants, il n'y avait pas eu de débrayage qui puisse être mis dans la balance pour mmh. justifier cet échec-là. Maintenant, s'il y a à trouver peut-être les raisons pour cet échec, ce n'est pas du point de vue de temps scolaire véritablement, donc mmh. la perte de temps scolaire. Maintenant, d'autres facteurs peuvent vraiment être conjugués pour justifier cela, notamment la qualité, même la question de la qualité de notre système éducatif.
Mmh.
Il n'est un secret pour personne depuis 2015. Notre système éducatif, Badelel, vous rappelez très bien avec l'avènement de l'éducation pour tous au Niger, l'État était dans l'obligation d'adopter ce qu'on avait appelé par le passé le programme décennal de points de l'éducation.
Mmh.
C'était dans la quête d'une meilleure amélioration du système éducatif au niveau de notre pays du Niger. Malheureusement, on pensait à l'horizon 2015, on pouvait aboutir à une scolarisation d'abord universelle où tous mmh. les enfants doivent être inscrits, c'est un droit.
Mmh.
Malheureusement, cette situation a favorisé ce qu'on avait appelé le recrutement massif des enseignants. Puisque le Niger est un pays qui n'est pas du reste, qui ne peut pas rester en marge des engagements internationaux. On avait pris cet engagement de scolariser tous les enfants à partir de 2015. Or, pour que les enfants soient tous à l'école, il faudrait qu'il y ait suffisamment d'enseignants.
Mmh.
L'État n'avait pas cela, on le savait très bien, même par le passé, on avait une insuffisance criante d'enseignants. On était obligé d'avoir recours vraiment à la main-d'œuvre facile. Et c'est en cela qu'on a recruté, vous rappelez très bien, les enseignants contractuels. Et il y a eu des bruits, il y a eu en tout cas des interpellations, des interprétations de ces modes de recrutement où certains sont allés jusqu'à recruter même des gens qui vendent des petits détaillants pour faire des enseignants. Or, vous le savez très bien, à partir de cet instant, la qualité va manquer parce que l'enseignement, c'est d'abord, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en une seule réflexion. Il faut que les enseignants soient formés. Il faut qu'ils sachent d'abord c'est quoi les programmes d'enseignement, qu'ils passent dans des écoles de formation et qu'ils acquièrent des connaissances en vue de bien dispenser les cours.
Si on vous comprend bien, Monsieur le Secrétaire Général, ces résultats reflètent plutôt le bilan de plusieurs années pour ces scolaires qui étaient en fin de cycle.
Tout à fait.
Vous prenez la date de 2015.
Voilà, de 2015 jusqu'à arriver à cela, mm-hmm. puisque à partir de cela, je vais aller peut-être rapidement. Il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été initiées par le ministère,
mm-hmm.
où j'allais dire même le gouvernement du Niger, notamment les programmes sectoriels de l'éducation et de la formation. On est aujourd'hui au programme sectoriel de transition pour l'éducation et la formation. Tout ça, c'est dans la quête de l'amélioration de notre système éducatif.
Mmh.
Malheureusement, et en dehors de cet aspect-là, vous conviendrez avec nous aujourd'hui, les conditions de vie dans lesquelles végètent les enseignants ne permettent pas aussi qu'on ait un bon rendement.
Mmh.
Aujourd'hui, avec des enseignants en majorité qui sont des contractuels, qui constituent plus de 80%, en tout cas de l'effectif des enseignants du Niger,
mmh.
je pense qu'on ne peut pas, si cette masse n'arrive pas à être mise dans des conditions idoines de travail, qu'on trouve un résultat qu'on peut souhaiter. Or, vous le savez très bien aujourd'hui, avec la question des pécules qui tardent, des fois avec des retards, cela peut contrarier en tout cas les enseignants à ne pas fournir les propres demandes ou peut-être à donner leur capacité réelle
mm-hmm.
pour un enseignement de qualité. Mm-hmm. En dehors de cela, vous avez notamment aussi les infrastructures scolaires. Vous le savez très bien, peut-être on va certainement nous reparler, la question des paillotes. Toutes ces préoccupations sont connus des ministères
mmh.
qui est en train, à travers le programme sectoriel de la formation et l'éducation aujourd'hui, d'apporter des remèdes. Donc, en dehors de cela, on peut aussi incriminer notre curriculum. Vous le savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser un curriculum qu'on a hérité, en tout cas, peut-être de la période coloniale. Aujourd'hui, on va repenser ce curriculum pour voir où est-ce que nous en sommes. Il faut ramener la réalité de notre système éducatif avec la situation de notre pays. Pas un système, peut-être sur lequel aujourd'hui nous sommes, qui est un système d'emprunt qui vient de l'extérieur, qui n'est pas favorable en tout cas à la capacité de faire en sorte que notre école soit une école de qualité. Donc il y a plusieurs corollaires, en tout cas plusieurs aspects, plusieurs mm-hmm. situations qui interviennent.
Ces résultats donc ont leur explication dans plusieurs facteurs que vous venez d'énumérer. Monsieur Wisleman Ransaratan, président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, quelle appréciation à votre niveau par rapport à ces taux de réussite enregistrés cette année au BPC et au baccalauréat session 2021? Nous avons obtenu 20,5% et 22,75%. respectivement pour le brevet d'études du premier cycle, BEPC, et le baccalauréat.
Merci de l'occasion que vous nous offrez. En tant que parent d'élève, vous conviendrez avec moi que chacun parent, à la fin de l'année, se sentira fier d'avoir de bons résultats concernant le cursus de son enfant. Malheureusement, vie sur le plan national, le taux n'est pas reluisant. Nous allons dire que sur 100%, 20% de nos enfants ont pu décrocher leur diplôme du BEPC et du bac. Cela veut dire que nous avons 80 sur 100 qui ont été mis à la touche pour certains et d'autres, peut-être, ils ont l'occasion de reprendre les examens. Maintenant, l'appréciation que je fais, c'est que je ne rentrerai pas dans les mêmes commentaires que l'acteur, l'enseignant Bizot, mais je verrai plutôt sous l'angle condition. Parce que pour réussir un examen, il faut le préparer sous toutes les formes. Il a parlé des infrastructures, tout ça, mais il faut aussi voir l'élève est-il dans les conditions, l'enseignant est-il dans les conditions, et le parent, est-ce qu'il a les moyens d'accompagner? Parce que tout cela concourt maintenant à appuyer, à accompagner les moyens mis par l'État. Très malheureusement, si vous voyez, en dehors des aléas de santé et autres dont il a fait cas, il faut souligner que aussi cette année, il y a eu les élections. Il y a eu les élections et les élections ont un impact.
Pendant l'année scolaire.
Les élections ont un impact parce que les grands acteurs des bureaux de vote, ce sont les enseignants, les élèves et les étudiants.
Surtout à l'intérieur du pays.
Oui, même dans la ville de Niamey, quand vous allez dans les bureaux de vote, ce sont les étudiants, ce sont les élèves, ce sont les enseignants qui sont mis. Je ne dirais pas que toute l'année ils ont été, mais quand même, le moment de ces élections-là était le moment crucial. Février, janvier, décembre, janvier, février étaient des moments très importants pour un enseignant et pour un élève. Et du coup, cet impact a aussi montré combien est-ce que l'enseignant est-il capable de restituer des leçons à l'enfant. Sinon, c'est vrai, c'est le plan académique. C'est une année que nous avons beaucoup applaudi, nous, en tant que parents d'élèves. Mais comme il l'a dit, effectivement, ces élèves, s'ils sont dans les classes de terminale, ils sont les produits des enseignants. Or, malheureusement, n'est pas enseignant qui veut l'être. Il faut reconnaître. Et comme il l'a dit, du moment où on a demandé un accès de tous les enfants à l'école, on a aussi jugé utile de recruter massivement les enseignants. Et quand il y a un recrutement massif dans ces surnombres-là, effectivement, on ne peut pas retrouver toutes les compétences requises. Voilà, effectivement, ces conséquences, nous les avons constatées parce qu'à un certain moment, l'État s'est arrêté et à travers le ministère de l'Éducation nationale ou des enseignements secondaires, il y a eu même une évaluation de l'enseignant. Ce qui veut dire qu'effectivement, même l'État doute des compétences de ses enseignants afin de produire de bons résultats. Donc, comme pour ne pas le répéter à Bizot, effectivement, c'est le résultat de beaucoup de circonstances cumulées depuis cette recommandation de l'extérieur, des forces de l'extérieur, parce que aujourd'hui nous sommes sous le joug. Comme il a dit tout à l'heure, colonial, ou de ces institutions mondiales de banques qui veulent à tout prix imposer leur façon de voir la bonne gouvernance. Et quand on va dans le cadre de la bonne gouvernance, elle monnaie des changements de système, des changements de politique de l'éducation. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à titiber, à chevaucher, à ne pas savoir exactement sur quel pied danser, même par rapport au curricula et par rapport au programme qui change d'année en année. Merci. En matière de réforme.
Merci, Président. Bachir Mamman, représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN, de votre point de vue, quelles sont les causes réelles de ces faibles résultats? enregistrés cette année.
Nous vous remercions d'abord, dans un premier temps, de nous avoir accordé cette occasion vraiment par rapport à cette question. Donc, nous disons, par rapport à ces faibles taux, il y avait eu un moment où les gens criaient de gauche à droite, en train de condamner l'ISN à être à la tête de tout ce qui se passe, comme mot d'ordre, comme grève, en train de nous accuser de gauche à droite, que nous sommes responsables des faibles taux que nous sommes en train de subir. Et fort heureusement pour nous, si je peux le dire pour l'ISN, les gens ont vu, l'année passée, il y avait eu zéro mot d'ordre. Et très malheureusement, nous nous sommes sortis avec un faible taux qui ne nous amène nulle part.
Ces résultats, justement, étaient de 23,43% en ce qui concerne le BEPC et 33,76% en ce qui concerne le BAC pour l'année passée.
Et voilà, nous sommes conscients. Les gens nous ont dit que nous sommes à... On a beau utiliser les moyens de faire comprendre. Parce que même dans nos revendications, nous, de notre côté, nous avons demandé des enseignants en qualité, en quantité. Et nous disons jusqu'à aujourd'hui qu'il y a un manque d'enseignants en quantité et en qualité. Et cela ne peut aller dans le système éducatif. Nous ne pouvons pas avoir des taux satisfaisants s'il n'y a pas ce que nous appelons les enseignants là en quantité et en qualité. Parce que cela nous conduit, vous allez voir, à 20-21%. Donc, si nous irons aussi l'année prochaine, ça serait de 19 à 18%. Donc, nous condamnons cela et aussi la reprise même de l'année passée. La reprise a été vraiment un peu tardive. Il y a d'autres qui ont commencé en novembre, les cours, en novembre. Nous avons réclamé des classes en paillotte, ceci, de gauche à travers. Tout ça, là, c'est une perte de temps. Cela aussi peut contribuer et aux baisses de taux que vous voyez ici. Donc, notre préoccupation, vraiment, dans notre revendication, nous l'avons toujours dit et nous allons encore le dire. Il nous faut vraiment des enseignants en quantité et en qualité pour pouvoir arriver.
Mais quelle est la responsabilité des scolaires dans ces résultats? Il y en a qui disent, par exemple, que certains auraient pu faire mieux à travers quand même le travail qu'ils ont produit.
Oui, à un moment donné, grâce à un problème, ils ont empêché même, ils ont arrêté, ils ont dit d'arrêter les cours privés, les cours d'appui, comme les G5, que les gens arrivent à organiser pour faire des cours d'appui. À un moment donné, le gouvernement a dit d'arrêter ces cours d'appui.
Ça, c'est un autre problème parce que le gouvernement avait évoqué ces raisons parce qu'au sein des écoles publiques, il y en a qui en font du commerce et donc ils n'étaient pas assidus à leurs cours où ils sont payés par l'État. Mais quand il s'agit de venir prendre de l'argent avec les scolaires pour dispenser, ils sont réguliers. L'État avait en tout cas à l'époque dit qu'il fallait mettre de l'ordre à ce niveau et que c'est à l'État de faire tout pour assurer une éducation de qualité pour tout le monde. C'était en tout cas l'une des raisons qui avait été évoquée à l'époque.
En tout cas, nous avons dit qu'il y a plusieurs manières de mener des contrôles pour pouvoir savoir si est-ce que nous avons une réalité et ensuite prendre des précautions. Mais il faut le dire, les cours d'appui aussi, ça, c'est important. C'est important. Surtout ce que les gens font dans les cours d'appui communal, là, vraiment, je pense bien que l'État doit revoir cette question.
Mais ce n'est pas gratuit quand même, c'est ça?
Oui, bon, ce n'est pas gratuit.
Et ils utilisent les infrastructures de l'État, ces enseignants qui le font.
Oui, plus ou moins, ça s'organise même dans les privés.
Ben voilà, c'était ça en fait, le souci qui avait été évoqué par l'État à l'époque. On vous comprend quand même, vous avez souhaité que vos camarades bénéficient de ces cours de soutien, même si c'est payant. On vous comprend. Il faut rappeler que par rapport au baccalauréat 2021 au Niger également, on a noté que seulement 7 candidats, dont 3 filles, qui ont pu obtenir la mention très bien, avait souligné le ministre de l'Enseignement supérieur, PhD Mamoudou Djoubo. Peut-on parler d'une crise de la culture de l'excellence dans les établissements scolaires du secondaire? Monsieur Bizo Moussa, secrétaire général du syndicat national du cadre de l'éducation au Niger.
Bien, mais moi je pense que les deux sont liés. Hein. Si on parle de la crise scolaire ou de l'échec, qui est retentissant par rapport aux résultats, aux derniers résultats et même aux résultats des années passées, je pense qu'il va de soi qu'il y ait une crise d'excellence. Mm-hmm. Parce que ce n'est que la conséquence de tout ce que nous avons évoqué tout de suite par rapport aux errements de notre système éducatif. Si le système éducatif n'est pas de bonne qualité, il va de soi que même au niveau de l'excellence, que les fruits ne soient pas, que la moisson ne soit pas ce que nous avons escompté. Mm-hmm. En ce sens, moi je pense, nous avons évoqué pas mal de facteurs, mais entre autres, moi j'aimerais juste ajouter ce que vous le savez très bien. Il y a aussi des réformes ou des innovations pédagogiques les plus souvent qui sont instituées au niveau du ministère, qui ne sont pas de nature de fois à faciliter la tâche aux enseignants. Ce n'est pas qu'on est contre des réformes, mais c'est que les plus souvent, trop de réformes aussi déroutent les enseignants. Surtout pour beaucoup, nous échangeons avec les collègues enseignants. Il y a les plus souvent certaines réformes qui sortent où il n'y avait pas de suivi ou peut-être même une formation pour permettre aux enseignants ou peut-être les encadreurs pédagogiques, autres les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, de pouvoir informer ou former même les enseignants sur ces nouvelles réformes. Or, quand on fait des réformes, c'est pour les appliquer. Il va de soi que les systèmes éducatifs, une fois que les enseignants, les utilisateurs de ces réformes n'arrivent pas à comprendre même où est-ce qu'on va par rapport à ces réformes, que les résultats ne soient pas des résultats bons. Mmh. Il y a des aspects sur lesquels aussi nous avons tenu en compte. C'est d'abord d'avoir la formation initiale. Nous devrons nous interroger, est-ce que la formation initiale qui est dispensée au niveau de nos différentes institutions de formation, est-ce que cette formation initiale permettre aux enseignants, une fois sortis de ces écoles et de ces institutions-là, d'être efficaces sur le terrain. Je pense en ce sens que même le ministère avait pensé, avec l'avènement du président actuel, le président Bazoum, son Excellence le président Bazoum, donc de faire en sorte que de renavant par rapport aux primaires, que ce soit un recrutement avec les bacs. Et là aussi, peut-être, il y a beaucoup
c'est
de choses.
C'est en perspective.
C'est en perspective pour que les entrants, en tout cas des écoles normales, soit ceux qui sont les détenteurs de bac, pas les BPC. Et je pense que ce serait une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Le BPC actuel, à le comparer avec les diplômes des années antérieures, ma foi, je ne dirais pas que c'est même en dessous du CFPD, mais franchement, nous n'avons pas des élèves qui soient, en tout cas, avec des qualifications requises une fois avec les BPC sur le terrain pour faire la formation des ignes. Et l'autre aspect aussi, c'est par rapport aux enseignants, la formation de ces enseignants, puisqu'on a parlé d'un nombre important des enseignants, notamment les enseignants contractuels. Vous le savez très bien, il y a des fois des pertes de temps qui sont occasionnées, même si peut-être on ne les considère pas, on ne les quantifie pas comme étant des pertes sérieuses. C'est celles les plus souvent qui font que les enseignants partent chercher leur pécule, même si aujourd'hui, avec l'avènement de Niger Post, encore que certains reprochent qu'il n'y a pas un grand pas entre les paiements qui se font actuellement avec Niger Port et les paiements antérieurs. Donc, il y a pas mal de choses parce que le système, nous devrons le revisiter pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Nous devrons tous nous interroger et nous remettre en cause. Enseignants, syndicats, les gouvernants, vraiment pour voir concrètement qu'est-ce qui ne va pas. Parce que si on parle, vous avez rappelé à juste titre l'année passée, où on a 23,25% et 33,76%. Je pense, c'est comme j'ai eu à faire cette petite genèse au début de mon intervention, la situation n'est pas une situation actuelle. Donc vraiment, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de nous interroger, nous tous, et d'interroger notre système éducatif. Puisqu'on ne peut pas rejeter certainement la force sur les élèves. Les élèves ne peuvent que livrer, en tout cas, ce qu'on leur apprend à l'école en cas d'examen. Ils ne vont pas faire de la magie. Mais quand même, ce n'est pas peut-être pour les dédouaner, parce qu'ils aussi ont une part de responsabilité aujourd'hui. Il faut les amener à comprendre que l'école, le plus souvent, peut-être avec, arrivé avec cette situation de la Halcia, qui s'est impliquée dans les derniers examens, le plus souvent, les gens pensent qu'il y a des facilités auxquelles on doit s'attendre. Et je pense même ça aussi, ça a contribué à davantage rendre encore plus minime la recette, en tout cas de cette année.
Ça veut dire que, si on vous comprend bien, vous voulez dire par là que le BPC et le bac ont été propres cette année,
bon,
c'est à cause de ça.
En tout cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a critiqué l'organisation en tant que telle, que ce soit du côté des enseignants ou du côté, en tout cas, des élèves ou peut-être des gens. Au moins, même si par ailleurs, au départ, nous avons mal apprécié peut-être l'intervention tous azimuts de la Harcia, l'implication. Parce qu'on s'est dit, de la même façon que les autres secteurs ne sont pas aussi concernés par cette question de la Harcia, on ne devrait pas les faire directement au niveau du système éducatif. On devrait, si on a, il y a lieu de généraliser, qu'on les fasse pour l'ensemble. Parce que ce n'est pas seulement, la corruption n'est pas seulement rampante au niveau du système éducatif. Mais on suppose que, au moins, ça a un effet.
C'est l'un des endroits où on a beaucoup plus de corruption.
C'est parce que peut-être sur cet endroit-là, pour l'instant, qu'on a vérifié. Si on va dans, dans d'autres endroits, aujourd'hui, il y a même des endroits où la Harcia n'est pas là, où on fait des cas de corruption qui sont avérés. Mais c'est peut-être parce que c'est le système sur lequel, pour l'instant, la Harcia a mis ses radars, j'allais dire, et qu'on constate que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a de corruption. Donc, c'est pour dire que, avec cette implication, quoi qu'on dise, je pense à un peu atténuer certaines velléités de fraude, que ce soit au niveau des parents ou ailleurs.
On a vu même que les épreuves étaient déposées au niveau des commissariats de police. C'était inédit parce que
ça, c'est
on n'avait pas l'habitude de voir ça quand même dans l'organisation.
C'est des aberrations. Parce que si notre système PC, je pense que l'administration scolaire, c'est tout un processus. On a les premiers responsables, les ministres, on a les directions déconcentrées, autres. On peut faire confiance à nos responsables. Si on peut aller jusqu'à déposer des examens au niveau du commissariat, ça veut dire que c'est toute cette chaîne peut-être à laquelle on n'a pas confiance.
On le sait de par l'histoire qu'il arrivait très souvent que malgré tout ce que l'État dit avoir fait comme moyen pour sécuriser,
mais ça,
on
ça,
voyait des fuites.
Ça, c'est dommage. Je pense que c'est dans les mécanismes de surveillance, c'est les mécanismes qu'il faudrait renforcer. Pas peut-être voir si, de toutes les façons, la responsabilité peut incomber. Si c'est dans les sanctions, on n'arrive pas à sanctionner peut-être les éventuels contrevenants par les passions autres, ça peut susciter effectivement peut-être l'implication de la Harcia. Mais si on applique les textes, je pense que chacun va se dire qu'il y a une responsabilité de l'organisation et que la responsabilité, qu'elle soit pénale ou autre, doit être individuelle. Mais tant qu'il n'y a pas de sanctions, eu égard à un certain nombre de manquements, il va de soi des fois que peut-être qu'on puisse constater ces erreurs. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, à notre corps défendant, c'est la Harcia, c'est la gendarmerie, c'est la police qui vient faire le travail que les anciens sont censés faire et leur administration.
Monsieur Wisleman Ransertan, président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, quelle appréciation par rapport à l'organisation de cette session 2021 du BEPC et du baccalauréat?
Vraiment, par rapport à l'organisation, nous, en tant que structure de parents d'élèves, nous n'avons pas à dire quelque chose par rapport à l'État quand il s'engage à vouloir organiser une activité qu'il juge utile de rendre propre. Nous serons les premiers à applaudir nos enfants quand ils réussissent proprement leur diplôme. Parce que la tricherie, dans tout le sens qu'elle veut dire, rattrape. Je ne traite pas mes enfants de tricheurs, mais la tricherie, elle est condamnée culturellement et religieusement. Et elle ne fait pas la fierté de celui-même qui en bénéficie. Parce que lui-même, c'est sachant...
Et de la société tout
voilà,
entière.
Lui-même, c'est sachant prédominé par ce préjudice.
Ça veut dire que vous avez constaté du sérieux, si on vous comprend bien, dans l'organisation de ces examens.
Nous l'avons constaté parce que nos enfants sont avec nous. Et ils ont même déjà un slogan qui circule que tout celui qui a le bac ou le BPC est quelqu'un qui se sent fier. Donc, ça veut dire que tout le monde sait qu'il y a eu des conditions, des précautions qui ont été prises pour que, vraiment, qu'on limite les dégâts par rapport aux résultats.
Est-ce que ça a été l'un des facteurs pour avoir ces résultats qui sont jugés faibles aujourd'hui par certains acteurs?
Nous pouvons le dire que vraiment ça a contribué. C'est vraiment un facteur. Malgré que ça a trouvé effectivement ce manquement du produit, de la qualité de l'enseignement, mais ceux qui sont admis quand même, nous pensons que c'est vraiment ce qui le mérite, malgré qu'il ne faut pas aussi oublier que dans notre jargon africain, on dit toujours que quand tu as la chance, tout est souri. Donc, en tant que parents d'élèves, vraiment, le seul aspect, nous avons à le dire, j'étais à un débat avec la Harcia et nous avons dit que la façon que nous n'avons pas apprécié, effectivement, c'est que c'est l'organisation des examens a été envahie par la Harcia de manière un peu plus trop militaire. Parce que la présence même Moi, nous avons été au CEG Couronne Nord où il y a eu le lancement. Mmh. Même quand tu rentres dans la cour à voir les bérets, ça frustre et ça fait peur.
Aux élèves.
Ça fait... Même nous, candidats. Les parents, nous avons eu peur. Tu n'osais même pas parler, pensant que dès qu'on te voit en train d'échanger avec quelqu'un qui est en train de donner une information à plus forte raison des élèves. Mmh. Et nous avons vu des élèves qui avaient oublié leur convocation. Ils avaient du mal à vouloir s'expliquer. Mmh. N'eût été l'intervention des parents d'élèves et la compréhension des présidents de jury. Mmh. Et voilà. Et effectivement, même le représentant de l'ARCEA a reconnu. Il dit qu'en tant qu'enseignant, ils ne sont pas venus terroriser. Ils ont compris par la suite que vraiment, c'était un peu trop fort. Ils le reconnaissent, c'était stressant.
Et à l'avenir, donc, à l'avenir ils sauront à corriger certainement de votre point de vue.
Et puis, l'État, quand il fait à toi, Michel, et qu'il ne fait pas à Bizou, j'ai le droit de dire que l'État a mal fait.
Ça veut dire qu'il y a des endroits où l'État n'était pas présent.
Il y a eu des endroits
à travers la Halcia, comme ça a été fait ailleurs.
Voilà.
Mm-hmm. Donc c'est amélioré, c'est votre point de vue. Merci à vous, Monsieur le Président. Bachir Maman, représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Comment vous appréciez cette rigueur, si on peut l'appeler ainsi, de l'État dans l'organisation de ces examens au niveau du secondaire cette année?
Bon, cette rigueur-là, nous l'avons constatée. D'ailleurs, dès l'inscription en question, parce qu'il faut le rappeler, cette année, l'inscription, ça s'est fait...
Au bac, c'était en ligne.
Voilà, c'était en ligne. Mm-hmm. Alors que si nous faisons le constat, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui utilisent le téléphone Android, ce qui a causé beaucoup de tensions, si je peux le dire. Parce qu'ils ont eu à faire leur clôture, il y a eu jusqu'à 300 et quelques... dossiers qui n'ont pas pu être déposés.
Finalement, ça n'a pas été validé ou
bon, ça a été
avec
validé,
votre intervention.
Ça a été validé grâce à l'intervention de l'ISN et aussi et l'intervention du gouverneur qui a vraiment nous avons apporté des preuves palpables pour que nous ce que nous constatons ensuite c'est que quand nous rentrons dans une centre, c'est comme s'il y a un recrutement de militaires et je pense bien que ça va apaiser sur nous. Mmh. Bon, nous ne condamnons pas fermement c'est l'organisation, mais vraiment à pouvoir à modérer la situation, si je peux le dire, de nos candidats.
Un mot par rapport donc aux mentions très bien obtenues. Elles sont au nombre de 7 seulement, ces mentions très bien. Est-ce parce que les épreuves ont été difficiles, vous pensez?
Bon... Il y a pas, je ne peux pas le dire que les épreuves ont été difficiles, mais tout simplement, ce taux-là, c'est vraiment l'encadrement qui n'est pas meilleur. C'est l'encadrement qui n'est pas meilleur. Et tant qu'il n'y a pas un bon encadrement, il ne peut pas avoir de l'excellence.
Merci. Terminons par la dernière partie de ce forum du Studio Kalangou ayant pour thème les résultats des sessions 2021 du BEPC et du baccalauréat au Niger. Quel bilan? Et c'est pour parler des actions à mener pour réussir à améliorer ces résultats et le niveau des scolaires du secondaire à l'avenir. À ce niveau, quelles sont les leçons à tirer par rapport toujours à ces faibles taux de réussite au BEPC et au baccalauréat au Niger? Et que faire pour une amélioration de ces taux de réussite et du niveau des scolaires à l'avenir, Monsieur Bizou Moussa.
Bien, merci. Les leçons à tirer d'abord, il faut le reconnaître, notre système éducatif bat de l'aile. Il bat de l'aile au vu des résultats que nous avons malheureusement engrangés ces dernières années. Moi, je ne parle même pas de cette année. Il faudra vraiment qu'on arrive à les repenser pour que le résultat soit encore meilleur et que notre système éducatif retrouve ses lettres de noblesse. Et pour ce faire, je m'en vais peut-être faire ces quelques propositions. C'est d'abord de mettre l'accent sur la formation des enseignants, quelle soit la formation initiale ou continue. Donc, initiale au niveau des institutions de formation, au niveau de l'école normale supérieure pour le secondaire, et au niveau de la formation continue, avec les plus souvent, je reviens là-dessus, les innovations pédagogiques que les ministères arrivent les plus souvent à mettre en place, il faut qu'on s'assure que les formations, les enseignants les ont très bien maîtrisées. Un autre aspect, c'est par rapport au recrutement. Je pense que c'est une très bonne chose puisqu'on a la volonté politique qui est clairement affichée par le président actuel de faire de l'école, nous nous réjouissons en tout cas en tant que structure syndicale, de faire de l'école nigérienne, en tout cas une priorité de ses actions. C'est une très bonne chose, nous pouvons que renforcer cette conviction qu'il a pour qu'on aille en avant. Donc pour cela, je pense qu'il faut revoir la question même des profils, puisque vous rappelez très bien le ministère de l'enseignement secondaire, à mener une évaluation, comme d'ailleurs le ministère du primaire, de l'ancien primaire. Pour le primaire, vous avez vu le résultat, ce que ça a donné. Il a fallu malheureusement que certains enseignants, en tout cas un grand nombre d'ailleurs, des milliers d'enseignants soient remerciés, malgré les difficultés que nous avons pour résorber, en tout cas, les besoins en enseignants. Ça a été critiqué par les passés, par les structures syndicales et bien d'autres. Les secondaires l'avaient fait, il y avait pas, on n'avait pas remercié les enseignants, mais quand même, il faut le reconnaître, on a à peine un tiers des enseignants qui ont répondu favorablement aux besoins, en tout cas qui ont la capacité, en tout cas d'être considérés comme étant des enseignants qui peuvent enseigner valablement. Donc, vous voyez, il y a des difficultés donc, pour former ces enseignants aussi. C'est vrai, un plan de formation que le ministère de l'enseignement secondaire est en train, je crois, d'élaborer pour récupérer les autres, ceux qui sont, dont on a constaté qu'ils ont une faiblesse par rapport à cette formation-là, par rapport à l'enseignement. Il y a la question des profils enseignants. Je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Les profils enseignants et disciplines enseignées. Aujourd'hui, on n'est un secret pour personne, nous le savons très bien, nous ne le disons pas de gaieté de cœur. On est obligé, du fait de l'insuffisance des enseignants, des fois de recruter des formateurs, des enseignants, dont le profil initial n'est pas destiné à enseigner la matière qu'ils auront enseignée sur le terrain. Les gens l'ont dit pour eux, par exemple, je prends un exemple, on prend un linguiste qui va enseigner français, je ne dis pas qu'il ne pourra pas le faire, mais je pense, ou un sociologue qui va enseigner, par exemple, l'histoire, ou je ne sais pas, c'est maths, l'État, l'école dépasse la situation où on va passer par ce jeu de cache-cache. Il faut mettre les moyens pour former les enseignants de façon conséquente, avec des profils requis pour des disciplines requises. Il y a un phénomène, des fois, dans certaines écoles, notamment les zones rurales, où vous allez trouver les matières fondamentales, même les maths, les sciences et consorts. Les gens peuvent faire un trimestre banalement sans avoir un enseignant sur le terrain. Les
écoles, il y a des enseignants qui manquent au niveau de certaines matières.
Voilà.
Il faut corriger tout cela
parce que pour arriver à améliorer les résultats.
Au niveau des élèves, voilà. On vous a bien compris. Monsieur Bizo Moussa, Monsieur Wisleman Ransaratan, président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, selon vous, quels doivent être le rôle et la responsabilité de chaque acteur pour arriver à relever ce défi?
Chacun connaît son rôle. L'État doit jouer son rôle de régulateur, son rôle de bienveillant, parce que, outre cette responsabilité, il a accepté d'être accompagné par des acteurs. Donc ces acteurs doivent être dans des conditions, parce que pour une école, c'est quoi? C'est les infrastructures, les élèves, ensuite l'enseignant et le programme. Maintenant, ces infrastructures, aujourd'hui, nous le savons, partout au Niger, ça pose de sérieux problèmes, surtout quand ça remonte au niveau du secondaire, du lycée et de l'université. Il faut reconnaître aussi que ces infrastructures, au niveau du système, au niveau de la base même, parce qu'un enfant qui n'est pas rentré à l'école en octobre, qui doit commencer les cours plus tard, comme l'a dit Bizo, en décembre, pour manque d'infrastructures ou pour manque d'enseignants,
il
y aura un impact sur le temps scolaire. L'enseignant doit être sécurisé. Il doit être sécurisé sur le plan moyen et sur le plan propre, sa propre sécurité, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des régions où, effectivement, ces résultats sont impactés du fait de l'insécurité.
L'État doit donc redoubler beaucoup d'efforts. Que peuvent faire les parents d'élèves pour contribuer?
Les parents d'élèves, nous, c'est notre implication franche, sans ambiguïté et sans interventionnisme politique, parce qu'il faut reconnaître que c'est les parents qui amènent cette idée de politique dans les établissements, parce qu'ils viennent se gargarisant sous couvert d'une quelconque personnalité, jusqu'à pouvoir même intimider ou à déstabiliser le fonctionnement même de la structure à partir de sa base à travers les textes et statuts. Et nous, parents d'élèves, pour que cela réussisse, nous avons obligation d'aller avec l'État, comprendre les soucis des uns et des autres à travers les acteurs, et pouvoir faire un rapprochement de par notre rôle d'accompagnateur. Nous sommes aussi des gens qui devons comprendre que nous pouvons rapprocher les acteurs à travers les syndicats, surtout les enseignants, les scolaires,
Il y a aussi la responsabilité des parents à la maison.
Oui, effectivement, parce que c'est là où je voulais en finir par rapport
en contact pour répondre avec même, les élèves.
Oui, pour répondre même beaucoup plus. Au fiston qui parlait tout à l'heure des cours de remédiation. Mm-hmm. Ces cours de remédiation, en tant que parent, si je veux bien que mon enfant ait un niveau, je peux peut-être, si j'ai les moyens, comme il se doit, c'est de le faire accompagner par un répétiteur ou un enseignant à la maison. Mais quand ça va hors de chez moi, je n'ai plus de regard sur lui. Et il faut reconnaître que par là, il y a beaucoup d'enseignants qui manquent à leur engagement quand il s'agit d'aller dans les établissements. Et même nos enfants abusent souvent. Ils vont dans les établissements, mais ils ne suivent pas les cours. Ils ne suivent pas convenablement les cours.
Vous les conseillez donc à bien suivre
donc,
les cours,
maintenant,
à être assidu, ponctuel à l'école.
Nous demandons à l'enfant, à notre enfant, d'être correct avec lui-même. Et en résumé, nous allons demander à tout Nigérien, tant que nous ne changeons pas de comportement, quelles que soient les réformes, quels que soient les engagements, quand nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes, nous n'allons pas porter le Niger en avant.
Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou ayant pour thème les résultats des sessions 2021 du BEPC et du baccalauréat au Niger. Quel bilan ? Nous retenons que ces résultats résultent des travaux effectués au niveau du système éducatif nigérien depuis plusieurs années. Les intervenants ont souhaité à ce que l'État redouble d'efforts pour pouvoir mettre les enseignants dans les conditions. Il faut également recruter des enseignants de qualité en nombre suffisant sur l'ensemble du pays. Il faut revoir les infrastructures. La responsabilité des parents a été également interpellée. C'est d'une responsabilité collective qu'il s'agit. En quelque sorte, il y va de l'intérêt du pays tout entier que le niveau des scolaires évolue sur l'ensemble du pays. Nous étions en compagnie de Bachir Maman, il est le représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN, de M. Wisleman Ransaratan, président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, et de Bizo Moussa, il est le secrétaire général du syndicat national du cadre de l'éducation CISEN. Il est également membre de la coalition des syndicats, associations et ONG pour une éducation de qualité pour tous au Niger, ASSO EPT. Merci à vous, chers invités. Merci également à vous qui nous avez suivis, chers auditeurs. À la présentation de ce forum, c'était Michel Deji. À la technique, Mustapha Ayouba. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.